En quête de sens, vous est présenté par la Mutuelle Saint-Martin. Mutuelle santé efficace et fraternelle depuis 75 ans. Quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
Se promettre de s'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare et s'aimer pour le meilleur et pour le pire. Ce sont de bien belles et nobles promesses, mais qu'en est-il du quotidien lorsque, par exemple, l'un des conjoints tombe malade et que l'époux ou l'épouse se transforme alors en aidant, en soignant du jour au lendemain? Jusqu'où faut-il l'aider? Être petit soin quand l'autre ne peut rien donner d'autre ou promettre que son amour ou sa gratitude? Bref, comment accompagner un proche malade? Nous en parlons aujourd'hui dans cette émission Quête de sens avec mes trois invités qui sont, pour commencer, Maud Jean-Ayret. Bonjour Maud.
Bonjour.
Ravie de vous recevoir.
Et ben moi
dans
aussi.
Cette émission Quête de sens. Vous êtes maman de trois enfants, vous avez perdu plusieurs enfants à différents stades de grossesse. Vous avez d'ailleurs tiré de cette expérience ce fameux livre « Donne-moi des fils ou je meurs » qui est en cours d'adaptation au cinéma, si je ne me trompe pas. Mais si vous êtes venu aujourd'hui, c'est pour nous parler de ce petit ouvrage, Une certaine espérance qui est en lien direct avec cette émission Quête de sens qui vient de sortir aux éditions Baribal. Un livre qui est un roman choral qui parle au fond du courage des aidants dans un contexte de récidive de cancer. On va en parler aujourd'hui, à quel point c'est important. Je pense que Monique aussi de La Frenay, que je vais présenter après, en parlera aussi, à quel point il faut évidemment dès le départ, autant que l'on peut, mettre de la lumière, de l'espérance dans ce parcours. Même on n'en connaît pas forcément l'issue de ce chemin de soins, de résilience, mais même quand il y a une issue fatale, il faut quand même mettre de l'espérance et de la lumière. C'est ça qui est un piège.
Bien sûr, ouais. Et puis, dans tous les cas, il y a cette petite phrase que j'aime bien, mais qui dit les vivants ferment les yeux des morts et les morts ouvrent celui des vivants. Donc même si l'issue est difficile et dure, en fait, je pense que la maladie apprend chacun à se décentrer de soi-même et apporte quelque chose quand même de très très fort. Et c'est ce que j'ai voulu montrer en fait en présentant différents parcours. Alors c'est vraiment une fiction.
Alors dans le cadre, on va en parler, vous êtes vous-même, vous avez accompagné, donc ça c'est tiré de votre histoire personnelle, puisque vous avez accompagné vous-même, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Des personnes en récidive de cancer, c'est ça?
Oui, oui. Et puis je pense que comme tout le monde, malheureusement, le cancer touche
De plus en plus de personnes.
De plus en plus de personnes, je crois que c'est 435 000 nouveaux cas par an, donc ce qui est énorme.
Exactement.
Tu pourras le dire, Anthony. Je pense que voilà, on ne doit pas l'étouffer. Au contraire, plus on en parle et plus on accompagne, mieux c'est.
Bienvenue également à Monique de La Frenay. Bonjour Monique.
Bonjour Marianne.
Ravie de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes toujours médecin généraliste, présidente d'une association que l'on commence à connaître sur Radio Notre-Dame et RCF, Relais Étoile de Vie, une association pour handicap et moteur. Vous qui donnez du peps et de la lumière tous les jours dans le cadre de cette association, d'abord pour ces personnes que vous aimez profondément, Monique, hein, faut le dire.
Oui, et c'est vrai que quand vous m'avez invitée pour comment accompagner un proche malade, en fait, il y a différentes types et catégories, je veux dire, de maladies. Il y a des maladies d'ordre psychiatrique, mental, cognitive, peut-être Alzheimer ou schizophrénie. Il y a le handicap moteur, que maintenant je connais bien, une maladie chronique aussi, il y a des maladies chroniques, et bien sûr le cancer, dont au début on ne connaît pas du tout l'issue, si la personne va guérir ou va malheureusement partir.
Alors vous êtes venue avec aussi votre casquette de femme, d'épouse, puisque votre propre mari a malheureusement été touché par cette terrible maladie qu'est le cancer, qui a été diagnostiquée il y a très peu de temps, c'est ça, Monique?
Oui,
ça a été brutal pour vous et pour votre mari.
Un tsunami complet, là.
Ouais.
C'est vrai qu'à l'annonce, c'est compliqué à gérer. Après, il faut rebondir. Et en fait, c'est difficile pour moi parce que je suis à la fois l'épouse et le médecin.
Ouais,
c'est ce que j'allais vous dire. Donc, il a la chance de se reposer complètement sur le plan médical parce qu'il me fait tout à fait confiance. Et d'un autre côté, moi, je veux absolument, bien sûr, le meilleur pour lui. Et donc, c'est quelque chose qui m'a, on peut dire, empêché quand même de dormir pendant les 4 premières semaines. C'était compliqué pour la mise en place, pour les, voilà, de tout cet accompagnement.
Vous posez plein de questions sur qu'est-ce qu'il y a de mieux d'un point de vue de la santé, j'imagine.
Oui, c'est ça. Médecin, exactement. Tout
vous
à
savez
fait.
Les choses.
Tout à fait. Donc, voilà. Ouais. Et d'avoir les meilleurs intervenants, les meilleurs diagnostics, les meilleures interprétations des imageries qui n'étaient pas forcément interprétées de la même façon par tout le monde. Donc, c'est compliqué.
Ouais, parce qu'on sait encore bien peu de choses, hein, finalement, parce qu'on dit qu'il y a de plus en plus de cas diagnostiqués, en fait.
Ouais.
Hein. En fait, on saura, je ne sais pas s'il y a vraiment plus de cas qu'avant.
Ah, une science exacte,
non.
Ça. Hein.
J'ai pas l'impression. Donc, voilà. Anthony, bienvenue.
Bonjour.
Bonjour Anthony Miossec, que vous êtes vous-même qu'est-ce que je raconte. Vous êtes cofondateur de Ginkgo, un parcours de soins sur mesure pour les personnes justement touchées par le cancer et les proches aidants. Alors tant mieux, vous êtes en lien avec. Je ne sais pas si Monique Lafrenet connaissait Ginkgo.
Non.
Voilà, bah écoutez, voilà. Mieux
c'est chose
que
faite
jamais.
Maintenant.
C'est chose faite. Alors racontez-nous, qu'est-ce que c'est que ces parcours sur mesure? C'est relève de la nutrition, d'accompagnement général, c'est quoi?
D'un peu de tout. Ce qui touche plutôt au paramédical, on va pas s'inventer, on va pas devenir un hôpital ni faire des soins curatifs. L'idée, c'est vraiment d'accompagner donc toutes les personnes touchées par le cancer, quel que soit leur âge, quel que soit leur genre, et aussi les proches aidants sur les thématiques donc plutôt psychologiques, physiques, sociales, émotionnelles liées à la psychologie. Et donc comment ça marche très concrètement? On a aujourd'hui donc des infirmières qui sont chez nous, qui sont salariées chez nous, qui sont dédiées aux patients et aux personnes qu'on va accompagner et qui vont récolter tous les besoins et tous les symptômes ou les effets secondaires que peuvent avoir les patients. Et de par ça, construire un parcours sur mesure de soins. Donc typiquement, ça peut être du suivi psychologique, du suivi nutritionnel, du sport adapté, de l'ostéopathie, de l'art thérapie, etc. Il y en a vraiment un paquet. C'est ce qu'on appelle les soins de support. Aujourd'hui, c'est assez connu dans le monde cancérologique et de cancérologie. Et qu'est-ce que je voulais dire?
C'est un parcours complet, holistique, comme on dit.
C'est un parcours holistique et l'idée, c'est qu'il soit sur mesure parce que deux personnes du même âge ayant la même pathologie ne vont pas forcément vivre leur maladie de la même façon.
D'accord.
Et donc, l'idée, c'est d'adapter ça au cours du temps avec, du coup, nos praticiens qu'on a certifiés, qui sont, du coup, bienveillants, qui ont de l'expérience et qui ont aussi l'expérience de l'oncologie.
Et ça peut soutenir les aidants, du coup, c'est pour ça que vous êtes là.
Et aussi les aidants, exactement. Donc aujourd'hui, on a évidemment une majorité de personnes touchées par le cancer, mais petit à petit, on commence aussi à toucher les proches aidants de par les patients qu'on accompagne. Mmh. Et on voit la différence en termes de qualité de vie sur les personnes qu'on accompagne aujourd'hui.
Alors la première question qu'on se pose, évidemment, quand nous sommes en bonne santé et que l'autre personne tout à coup est malade, c'est que, alors que ce soit, alors on pense tout de suite au conjoint, évidemment, en plus on a une témoin avec nous qui est Monique de Lafrenet, mais même quand il s'agit de soi, sa mère, son père, une très bonne amie, un très bon ami, voilà, et qu'on se retrouve à son chevet, alors que la semaine d'avant, on faisait la fête ensemble. Enfin, j'en sais rien, mais c'est un peu le cliché. Mais c'est vrai que Maud, ça pose des questions aussi aujourd'hui, où on doit toujours être très soignant, on doit toujours tout gérer tout très bien, en montrant qu'on gère, qu'on contrôle, qu'on va bien, qu'on a le smile en toutes circonstances. Mais là, on peut pas plus mentir, quoi. On peut pas cacher cette maladie.
Non, et je pense justement qu'on est dans un rapport sans toutes nos couches d'oignons. Vous voyez, vraiment presque nu, de cœur à cœur. Alors évidemment, on va pas faire des miracles en tant qu'ami, en tant que femme. On n'est pas, voilà, surpuissant à pouvoir changer le cours des choses. Mais je pense que par la simple présence, déjà, d'être là, en soutien, d'être capable d'entendre la douleur, la souffrance de l'autre, juste une écoute neutre et pleinement tournée vers l'autre. Voilà, sans vouloir apporter mille conseils, enfin moi je me souviens, alors là c'est plutôt en rapport avec mon premier livre, mais sur le deuil périnatal, quand je perdais à répétition des enfants à différents stades de grossesse, j'avais une amie qui m'avait dit, moi j'ai pas eu de problème, je peux pas comprendre, mais je suis juste là et je vais un peu t'embêter. C'est-à-dire que le premier matin, elle était arrivée, elle avait déposé un gros plat pour mon mari et les enfants de ma porte, parce qu'évidemment, j'avais aucune envie de cuisiner.
Ouais.
Trois jours plus tard, c'était tiens, je passais par là, on va se balader en forêt. Et toutes ces petites actions concrètes et qu'on n'ose pas faire, on se dit ça va pas aller les choses. Et en fait, moi, je crois que si, en fait, fondamentalement, d'être là, Et puis de parler le pouvoir des mots, mais j'en parlerai peut-être après, parce qu'on d'animer des ateliers d'écriture, alors pas forcément pour des personnes malades, mais encore, puisque j'en anime dans des centres de prévention santé, mais j'en anime aussi dans des maisons de seniors, dans des résidences d'artistes, et en fait je propose aux gens de répondre à une simple question qui est: est-ce que tu as quelque chose d'essentiel à dire à quelqu'un? Dans ces cas-là, je les pousse à écrire une lettre. Et je vois qu'en 3 ans de cet exercice, il y a à peu près 500 lettres qui sont parties et qui parlent toujours des mêmes choses. En fait, on a besoin de quoi dans la vie? D'amour, de réconfort, de consolation, qu'on soit malade ou pas, finalement, en fait.
Ouais.
Et donc, ça aussi, moi, j'ai eu la chance, donc, pour ce livre, une certaine espérance de rencontrer des biographes hospitaliers. Peut-être que vous, Monique ou Anthony, vous en voyez aussi au quotidien dans votre travail. Mais j'ai trouvé ça formidable, ces gens qui viennent pour recueillir, aider à mettre des mots, faire exister en fait des réalités, redonner tout ce pouvoir et la beauté de la personne.
Monique, ça vous parle ou pas, ce côté c'est difficile en même temps de se dire que quand c'est quelqu'un de très 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 proche comme votre propre mari, qui c'est plus une amie là, c'est carrément votre mari quoi, qui passe de l'autre côté, de pas être, ne n'être non plus qu'aidant quoi, enfin vous êtes quand même sa femme encore, donc ça, vous y arrivez à trouver cet équilibre ou c'est quand même difficile encore aujourd'hui?
Non, en fait, on apprend. Je dois dire que c'est quelque chose de tous les instants.
Ouais.
Il faut s'adapter tous les jours à ce que la personne, est, à ce que la personne attend de chaque journée. Je dois avouer que mon mari est assez actif, genre, il n'aime pas rester sans rien faire, donc j'essaye de lui trouver au moins quelque chose à faire tous les jours. Parce qu'il est tellement gentil qu'il n'osera jamais demander rien à personne. Donc j'essaye d'organiser quelque chose. Et c'est vrai que il faut être comme vous disiez, là, ici, maintenant. En fait, on s'oublie aussi un peu hein, parce qu'on essaye de s'adapter. Alors moi, de temps en temps, le week-end, donc, il a été complètement rempli, mais du coup, je n'avais pas beaucoup de temps pour travailler. Mais bon, on s'adapte et puis je pense que en fait les personnes elles passent par différentes étapes en fait de deuil de la vie d'avant ou peut-être pas. Enfin, moi je parle à la fois en tant qu'aidante mais aussi en tant que présidente de l'association là pour les personnes handicapées moteurs qui peuvent avoir eu un accident brutal ou avoir une maladie qui s'est qui a terminé par une tétraplégie dans la sclérose en plaques ou quelque chose. Les personnes passent par différentes étapes de leur deuil, alors soit brutalement comme Philippe Pozzo di Borgo, soit progressivement, mais toute étape est un deuil quand on descend. Et enfin ces étapes de deuil, on les connaît. Il y a d'abord la sidération, l'état de choc, c'est ce que j'ai vu avec mon mari quand je lui ai annoncé qu'en fait, il avait un cancer, l'état de choc. Et puis ensuite, il y a aussi un mélange, le déni qui est salvateur quelque part. Ensuite, il y a le marchandage. Alors le marchandage, il peut être spirituel, il peut être familial. Enfin,
c'est quoi le marchandage?
C'est-à-dire qu'on marchande par rapport aux aidants, on essaye d'être gentil, ou alors on n'est pas gentil. Enfin, et puis on essaye aussi le marchandage vis-à-vis de Dieu. Tu me guéris si je fais ça. Enfin bon, ça c'est aussi une étape que quelquefois les personnes...
Même vous, vous êtes passant par là
Non. D'accord. Mais ça, je vous dis, je parle aussi en tant que présidente de cette association là, pour les personnes handicapées moteurs. Où là, c'est beaucoup plus. Là, Thibault n'est pas dans le stade marchandage. Après, il y a la colère. La colère, ça, c'est quelque chose de... Évidemment, il faut les accompagner dans leur colère. Et puis après, il peut y avoir la dépression et parfois l'acceptation. Mais l'acceptation peut ne pas être partagée par l'aidant, en fait. Moi, j'ai dans mon association un monsieur qui est totalement... qui est presque tétraplégique, on va dire. Il a totalement accepté. Pourtant, c'est un accident médical. Il a totalement accepté. Mais sa femme, ça fait pourtant 15 ans, je crois. Peut-être 20, d'ailleurs. Elle n'a toujours pas accepté. Donc, tout ça, il faut... Ouais. Et puis, ils peuvent passer de la colère au déni. Enfin, tout ça. Et il faut les accompagner. C'est, c'est pas toujours simple, en fait, de laisser accompagner là où ils sont, comme vous disiez, ici et maintenant.
Je n'ai pas Dieu, quoi, les aidants.
Toujours s'adapter, voilà. Toujours s'adapter à tout.
Ouais.
Bon, après, on en parlera, il faut que, effectivement, que les aidants se ressourcent.
Oui, ouais, voilà, il faut voilà. Vraiment que les aidants soient aidés eux-mêmes.
Voilà. Mais ça, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure.
Et nous sommes en ligne, justement, peut-être Véronique aura-t-elle une réponse à cette question. Véronique Lefebvre-Desnouettes, bonjour Véronique.
Bonjour Marie-Anne.
Bienvenue dans cette émission, ravie de vous entendre. Vous qui êtes psychiatre de la personne âgée de la PHP, vous avez publié « Mourir sur ordonnance » au Rocher. Vous avez animé un colloque, je crois, au Bernardin, sur la solidarité avec les personnes en fin de vie. Enfin, on ne vous présente plus, Véronique Lefebvre-Desnouettes.
Merci beaucoup.
Et c'est vrai que c'est une question qui vous tient à cœur, l'accompagnement d'un proche malade. Alors, pas forcément en fin de vie, mais ça peut évidemment l'être, hein. On est quand même humain trop humain, comme disait l'autre, et c'est vrai qu'avec nos petites limites, voire nos grandes limites, il est parfois délicat, on veut trop bien faire, et alors, patatrac, on est dans la déception permanente. C'est pas facile de trouver l'équilibre, Véronique Lefebvre-Desnouettes.
Non, c'est absolument pas facile. Et puis d'abord, les gens ne savent pas qu'ils sont aidants. On a 11 aidants en France aujourd'hui,
oui.
Et notamment 5 millions de malades d'Alzheimer. Et du jour au lendemain, le conjoint, l'accompagnant, va se trouver dans une position d'aidant. Et là, la vie va complètement changer. Parce qu'il y a l'annonce du diagnostic qui annonce un pronostic de maladie chronique derrière. Mmh. Et il faut vraiment pouvoir soutenir les aidants, car c'est très bien d'aider. Hein. C'est formidable, on se dit, moi je vais être le meilleur, je vais y arriver, il n'y a que moi qui sais comment papa ou maman mange, etc. Et puis en fait, on s'épuise. Et les aidants sont des populations à risque, notamment pour les malades d'Alzheimer. L'aidant est une aidante dans 70% des cas. Elle va aider 60 heures par semaine. Ne se préoccuper d'elle. J'entendais Monique qui disait, ben oui, moi aussi, j'avais du travail à faire, je l'ai mis de côté. Et puis parfois même décéder avant la personne. Donc ça, c'est quelque chose, population à risque. Vraiment cibler les aidants, qu'ils se reconnaissent comme aidants. Et qui puissent partager leurs expériences d'aidants. Alors, on fait des thés aidants,
d'accord.
Des thés éthiques aidants. On fait des groupes de parole avec des psychologues, docteurs formés à l'écoute de ces aidants particuliers, qui représentent encore une fois la moitié des aidants dits naturels en France. Mais c'est pas aidant, c'est-à-dire qu'on vous coince là dans une position que vous n'avez pas choisie, et pourtant, il faut faire ça.
Oui, effectivement, Monique. Juste après la trêve musicale, pardonnez-moi. Une petite trêve toute douce et toute nostalgique, l'hôpital Perret. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Moi, je le découvre. Je l'ai découvert grâce à notre programme intermusical. Je vous laisse le découvrir tout de suite. À tout à l'heure.
En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
De fer tout blanc et sur la table de nuit un bouquet d'anémones offert par un ami, un petit transistor qui vous soutient le moral, c'est là tout l'univers des petits vieux de l'hôpital. Ici ça sent l'urine et l'huile de goménol, une femme aux cheveux blancs, tout doucement somnole, elle attend des nouvelles de son fils qui lui a dit depuis des mois déjà qu'il viendrait un lundi. Qu'on est loin de son pays natal quand on se retrouve à l'hôpital. Un poète aux yeux clairs toute la journée fredonne, il y a longtemps déjà qu'il n'attend plus personne, et pourtant il écrit au poste de radio demandant aux chanteurs d'envoyer une photo. La salle commune est pleine et le docteur regrette que pour 40 il n'y ait qu'un cabinet de toilette et que ces deux infirmières accablées de labeur qui sourient et qui grondent mais ne comptent pas les heures. Qu'on est loin de son pays natal quand on se retrouve à l'hôpital. Ils dévorent en cachette leur paquet de bonbons. C'est meilleur que l'endive et l'éternel jambon. Mais c'est dimanche heureux, en famille, en gâteau. Peut-on les remplacer par un triste loto? Quel est cet humoriste ou ce génial auteur qui affirmait que l'argent ne fait pas le bonheur? Certes, il n'effacerait pas l'atroce solitude, mais rendrait plus humain ce quotidien si rude. Car on est loin de son pays natal quand on se retrouve à l'hôpital.
Et voilà, Pierre Perret sur Radio Notre-Dame RCF. Comment accompagner un proche malade? Nous sommes en compagnie de mes quatre invités, Maud-Jean Aéret et son livre Une certaine espérance, qui parle justement du courage des aidants qui peuvent être aussi des enfants. Hein. Vous l'avez précisé à l'instant hors antenne et on va en parler bien évidemment. L'entourage familial, le mari, la femme, etc. etc. ça peut évidemment toucher les enfants, la fratrie. Maud-Jean Aéret, merci. Vous qui êtes maman de trois enfants, je le précise, qui est écrivaine. Anthony Miossec, qui dirige les produits, qui est cofondateur de Ginkgo, pardon, parcours de soins sur mesure pour les personnes justement touchées par le cancer et les proches aidants. Nous sommes également en compagnie de Monique Delafrenay, qui est médecin généraliste, qui est présidente de l'association Relais Étoile de Vie, qui s'occupe donc des handicapés moteurs et qui leur donne de la lumière et l'espérance au quotidien. Dieu sait qu'il y en a à leur en donner, elle en a à leur en donner, Monique, qui pétille, alors que son propre mari est touché malheureusement par le cancer depuis quelques mois, enfin même j'ai presque envie dire quelques semaines, et elle l'accompagne, donc c'est aussi évidemment en tant qu'épouse qu'elle est là aujourd'hui dans cette émission En quête de sens. Et nous sommes enfin en ligne avec Véronique Lefebvre des Nouettes, qui est psychiatre de la personne âgée et qui a publié Mourir sur ordonnance aux éditions du Rocher, qui connaît bien cette problématique de l'accompagnement des proches malades. Et vous le disiez, alors on va en parler évidemment, le changement de regard, c'est vrai que c'est important peut-être de l'évoquer avant d'entendre Anthony. Monique, vous disiez que c'était peut-être la chose la plus brutale, c'est peut-être ça. Est-ce que c'est pas le changement de regard que l'on porte sur la personne qui est malade?
En fait, la personne qui est malade, elle évolue dans tous les sens, en fait, elle évolue tout le temps. Et il faut vraiment accepter de faire totalement évoluer son regard. Je pense que c'est aussi par rapport à ça, mais quand on est même en face, même d'ailleurs, à des enfants, à des proches, toujours leur permettre un deuxième regard. Toute personne évolue. Mais dans une maladie, qu'elle soit chronique ou voilà, eh bien, en fait, la personne, elle change. Il faut toujours lui permettre un deuxième regard. Et je voulais juste parler d'une de mes patientes qui avait eu un cancer du pancréas. Et en fait, bon, elle était liftée de partout et ses enfants la voyaient comme une personne extrêmement superficielle, extrêmement qui n'était pas capable de se battre au quotidien. Et un jour, elle me dit, si j'apprends que j'ai un cancer, je me jette par la fenêtre. Alors, je lui dis, est-ce que c'est vraiment l'envie que vous avez, enfin, ce que vous avez envie de laisser comme image à vos enfants et vos petits-enfants? Elle me regarde, elle me dit, non, je crois pas. Et je pense que là, elle a compris qu'elle avait un cancer. Mais ses enfants n'ont jamais vu à quel point elle a fait son chemin. Elle a évolué. Elle a évolué dans le courage, dans l'affrontement de la mort. Et c'était magnifique. Et ils n'ont pas vu ça. Ouais. Donc, en fait, quand elle est arrivée au fond, elle avait encore plein de choses à dire, plein de choses à vivre. Eh bien, quand c'est arrivé, alors qu'elle n'était pas tout à fait en fin de vie, ils l'ont envoyée dans une clinique pour l'euthanasier. J'ai été très choquée.
Waouh.
Très, très, très choquée. Parce que, en fait, elle avait plein de choses encore à vivre. Mais la famille n'avait pas du tout vu et accompagné, ni en fait réussi à partager plein de choses avec.
C'est intéressant, je vous demanderai, merci. Alors, je ne sais pas ce que ça vous inspire, cette anecdote, ce témoignage de Monique, enfin cette anecdote en tout cas racontée par Monique de la Freinet, Maud Jean Ayret. Mais c'est vrai que le changement de regard peut s'opérer de la part des enfants sur un parent, par exemple, qui tout à coup soit subit un accident ou est atteint d'une grave maladie. Là, le changement de regard, il est brutal aussi. Hein,
oui, bien sûr. Mais bien sûr, je pense.
Ouais, allez-y.
Notamment, alors, je pense que chez les jeunes enfants, il y a tellement de résilience et tellement d'instantané que, voilà, c'est pas forcément. Enfin, des choses qui, nous, adultes, nous semblent terribles quand on se retrouve paralysés, voilà, avec des couches, avec tout ça, ça peut être terrible ce regard d'adulte. Mais l'enfant, à la limite, il peut passer outre. En revanche, je pense notamment aux adolescents, où c'est difficile, où on est en pleine construction de soi, et d'avoir une maman qui, effectivement, pouvait être une femme, comme vous dites, qui rayonnait, et qui, du jour au lendemain, se retrouve vulnérable. C'est difficile aussi, parce que c'est un pilier
qui
s'écroule. Et puis, une image, oui, surtout dans notre société, qui, quand même, a toujours, comme vous le disiez au départ, a toujours mettre en valeur le beau, on a l'impression que tout le monde est magnifique, le performant, tout. Le parfait. C'est un vrai sujet.
Et c'est justement un sujet qui vous touche particulièrement, pardon, Anthony Miossec, dans le cadre de vos produits Ginkgo, dans vos parcours sur mesure Ginkgo, justement pour les personnes atteintes de cancer et les accompagnants, c'est le moment justement où l'on devient aidant sans le savoir d'une certaine façon. Il y a un moment donné, hop, on passe dans l'autre camp.
Exactement. Et plus que ça, je l'ai vécu aussi de manière personnelle. Avec une maman qui a eu une phase plutôt en lien avec l'alcoolisme, quand j'étais plutôt jeune, donc entre 15 et 18 ans. Et puis, je le vis même actuellement aussi avec une femme, ma femme, qui vit une dépression postpartum. Et donc, en fait, sur ces deux histoires personnelles, à aucun moment, je me suis dit que j'étais aidant. Et c'est que maintenant, et très, très récemment, que en fait, je commence à comprendre que ma position, en fait, c'est une position d'aidante. Et je commence à comprendre aussi les mécanismes et qu'est-ce que je dois mettre en place, moi, enfin, en tant que positionnement, ouais, face à ces gens-là, face à mes proches, quoi, pour les aider au mieux. Et donc, c'est que maintenant que je comprends ça. Alors, du coup, je regrette un peu les années passées parce que je me dis que j'avais pas le bon positionnement. J'étais plutôt dans une position, de par mon esprit, je pense, ingénieur cartésienne, qui était « Ok, il y a un problème, il faut chercher une solution. » Et au final, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Et je le remarque dans ma vie de tous les jours. Et ma femme, d'ailleurs, est formidable là-dessus parce que, à la fois, elle vit quelque chose de dur, qui est une dépression postpartum, mais et puis aussi un burn-out en plus de ça. Donc, elle a aussi quand même ce côté esprit un peu psychologue, où elle me fait comprendre quelle position je dois avoir pour l'aider au mieux. Donc ça c'est magnifique.
Ouais.
Et du coup, petit à petit, je change mon positionnement. J'essaie d'avoir la position, comme on vient de dire, d'écoute active, de comprendre, d'essayer de proposer de l'aide. Mais plus du tout dans « Ah, mais tu devrais absolument faire ça, c'est ça qui va t'aider. » Voilà. Et donc, c'est de là que je comprends mieux comment je peux aider aussi mes proches qui vont...
Ça vous parle quand on vous dit... Je crois que c'est Maud, c'est vous qui avez parlé la première de l'écoute, c'est-à-dire juste d'être là. Ça vous parle ou pas, ça?
Totalement. Ouais, totalement. Je le vois dans ma vie de tous les jours, justement, en changeant petit à petit mon positionnement. C'est que plus je l'écoute, mieux elle se sent. Plus je lui montre que je commence à comprendre, ou même que je m'intéresse, plus elle se sent mieux. Donc, je le vois.
D'accord. Maud.
Ouais, moi, j'avais envie de rajouter aussi, notamment là, par rapport au deuil, ouais, périnatal, mais moi, du coup, maintenant, avec beaucoup de recul, avec mon mari, on en reparlait, et c'est vrai que justement l'aidant, le mari qui est à côté, ne vit rien dans son corps, n'est pas acteur, il est juste à côté, spectateur de quelque chose. Mmh. Et comment on fait quand on est spectateur? Enfin, lui, clairement, il a aussi joué ce rôle de rock, d'être là quoi qu'il arrive, et je trouve qu'il y a un vrai sujet parce que au final ces spectateurs sont pleinement acteurs et c'est eux qui sont là à tenir la main de celle qui souffre et qui va qui va permettre de remonter. Enfin, je ne sais pas ce que Monique vous en pensez. Mais...
Vous sentez spectateur, Monique ?
Je ne sais pas, mais je sais qu'il y a une chose, il faut vraiment se désarmer totalement de cette certitude, de ces certitudes, voilà, comme vous disiez.
D'accord.
Il faut faire ça, il faut faire ci, etc. Il ne faut pas avoir vraiment de projet à la place de l'autre, en fait. Je pense qu'il faut toujours faire avec et pas pour. Enfin, il ne faut pas reléguer la personne qu'on accompagne au rang de, ben, de dépendant, quoi. Enfin, vraiment, il faut accompagner, vraiment être avec. Être avec, pas toujours pour. Ce que me disait d'ailleurs une personne handicapée, là, qui, enfin une jeune femme, qui criait tout le temps, arrêtez sur les réseaux sociaux, arrêtez de faire pour les personnes handicapées, faites avec. Et elle a toute sa tête, elle a eu un accident de ski, donc elle s'est retrouvée en fauteuil roulant. Ça, c'est, voilà, ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est très, 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 très important. Et c'est difficile, hein.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire, en fait. Hein. C'est pas si simple, c'est facile à dire, mais encore une fois... Ouais,
et sachant que ces personnes malades sont elles-mêmes aidantes à certains moments d'autres, en fait. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est qu'on est dans... Enfin, il ne faut pas nous enfermer dans un statut et les enfermer dans un statut où... et je pense qu'à partir du moment où on remet la personne juste à sa, voilà, sa juste place...
Vous voulez dire qu'elle donne autre chose ?
Ah oui, bien sûr. Ah oui. Bien sûr. Moi, je pense, enfin, en tout cas, c'est tout ce que j'ai voulu montrer dans Une certaine espérance, c'est que en le voulant ou sans le vouloir, elle va permettre peut-être que des non-dits soient dits, des secrets de famille sortis. Elle va aider voilà, parfois des personnes un peu enfermées dans leur égoïsme ou dans leur superficialité à se décentrer d'elles-mêmes et à devenir des, entre guillemets, meilleures personnes. Ça, j'en suis convaincue.
Ouais, vous en êtes d'accord également, Véronique Lefebvre des Nouettes. En fait, ça fait changer tout le monde, hein, cette histoire. Alors parfois, malheureusement pour le pire, il y a des histoires qui finissent mal, comme celle racontée par Monique de La Fresnay tout à l'heure, mais ce serait bien, évidemment, dans le monde idéal, si ce genre d'expérience pouvait nous éclairer et nous rendre plus sages, entre guillemets, les uns avec les autres, quoi. Mais bon, mais c'est intéressant.
La maladie nous transforme déjà quand on l'a subie et quand on devient aidant. Et elles ont très bien tous témoigné et raconté qu'il y a une espèce d'approchabilité. Comment je vais faire ? Hein, il y a continuellement un va-et-vient entre ce que je vis comme malade, ce que vit l'aidant. Et il y a cette accointance, cette affordance qu'il faut avoir entre les deux. Il faut bricoler. Il ne faut pas être dans des procédures, des protocoles. J'ai aussi écrit un livre qui s'appelle « La force de la caresse ». Et ça, c'est tellement important. Hein, être à côté dans une juste présence quand on est soignant et pas dans une juste distance. Quand on est aidant aussi, ça suffit. Et la narrativité, se raconter, raconter les autres. Il faut une chambre d'écho à ce qu'on travaille, à la fois au niveau psychologique, à la fois des douleurs physiques, etc. Alors bien sûr, il faut un réseau de gens compétents et appétents, de professionnels, mais il faut se faire aider et humainement aider.
Ouais, vous aviez l'air de dire oui, triplement oui, Monique, à ce que disait Véronique, justement.
En fait, bon, là aussi, je vous dis, je parle en tant que médecin et en tant que président d'association, mais c'est vrai, en tant qu'aidante aussi, c'est là où on peut compter vraiment sur sur la famille et sur les vrais amis. J'ai une personne de notre association, ils étaient extrêmement bien aimés dans le quartier, etc. Donc, le monsieur a eu aussi un accident de voiture, ou je ne sais plus. En tous les cas, il s'est retrouvé en fauteuil. Et ben, les très bons amis du quartier, ils changeaient de trottoir pour ne pas les rencontrer. Ah ouais. Donc ça, c'est compliqué. Là, en fait, en tant que mon parcours proche, là, c'est exceptionnel. Parce que vraiment, il y a des amis que je ne vois jamais et qui ont été tellement touchés, enfin, vraiment des témoignages. Il y en a qui ont créé un groupe WhatsApp pour prier pour mon mari. Bon, j'ai mis trois personnes au début. Hein. Franchement, je trouvais ça bon. Voilà. Et là, on est plus de 80.
Waouh.
Et des gens que je n'ai pas vus depuis des années.
Mais des vrais amis.
Ah, mais c'est moi, je suis impressionnée. Hein. Alors là, on est en train de faire une neuvaine à Saint-Charbel là, pour que mon mari guérisse. Et en fait, il y en a une qui, qu'on connaissait mal, vraiment. Qui était en transit entre New York et Madrid, qui est venu à la maison apporter deux chapelets de Sainte-Charbel, vraiment en taxi depuis Paris, entre deux. entre quasiment entre deux avions. Enfin, il y a des choses très 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 belles, vraiment très très belles qui se font. Et c'est malheureusement, il y a des gens aussi qui sont très très seuls. Ouais. Et être très seul dans ce genre de situation, c'est tellement lourd.
Seul, ça veut dire qu'ils sont lâchés.
Je pense qu'ils sont lâchés par des gens qui, au fond, ne savent pas, tout simplement ne savent pas comment exprimer leur empathie, ne savent pas, en fait.
Mmh. Ouais, vous êtes d'accord, Maud, ou pas?
Oui, et surtout, où il y a de la peur, il y a aussi se dire, mais moi, à côté, ma vie, qu'est-ce que je vais pouvoir dire, en fait, à cette personne qui souffre, parce que moi, tout va bien, et encore ce matin, je râlais parce que... voilà, la douche était cassée, je sais pas qui était en retard. Non, mais
vous parlez de moi là.
Ah non, je sais pas, Marie-Ange, mais ouais,
bref,
je pense qu'il y a ces peurs et qu'il y a beaucoup de choses. Faut pas non plus se dire, oh là là, les personnes sont égoïstes. Je pense qu'il y a vraiment
on
de
est
la gêne.
On est tous un peu peut-être.
Est-ce que je vais être à la hauteur
à un moment donné, traversé par ces peurs, quoi. C'est ça que je voulais dire. Sing les Carpenters sur Radio Notre-Dame et RCF. On se retrouve juste après.
Quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
Sing, sing a song, sing out loud, sing out strong. Sing of good things, not bad. Sing of happy, not sad. Sing, sing a song. Make it
dans ce studio, dans cette émission en quête de sens, les Carpenters pour mettre un petit peu de respiration dans cette émission en quête de sens, qui n'en manque pas, avec nos quatre invités, comment accompagner un proche malade. On sait à quel point ça peut être un bouleversement extrêmement douloureux, que ça peut être tragique pour certains et certaines qui nous écoutaient aussi. On vous embrasse chaleureusement d'ailleurs aujourd'hui, on en profite pour le faire. Maud Jean Ayret est avec nous, elle qui a écrit justement un ouvrage qui vient de sortir, Une certaine espérance, aux éditions Baribal, et qui raconte justement ce rapport des dents ce rapport d'accompagnement de la maladie, du cancer en particulier, et cet hommage au courage qui peut devenir une sorte de lumière. Hein. D'ailleurs, vous l'avez un petit peu dit aussi tout à l'heure, chère Maud Jean Ayret, qui est écrivaine également. Anthony Miossec, qui est cofondateur de Ginkgo, parcours de soins sur mesure pour les personnes à la fois qui sont touchées par le cancer, mais qui aident les personnes qui sont touchées par cette maladie. Et il y en a de plus en plus, on l'a encore dit il y a quelques instants. Monique Delafrenet, médecin généraliste, président de l'association Relais Étoile de Vie, qui donc accompagne son mari en ce moment atteint lui-même d'un cancer grave, et qui nous raconte à quel point justement il est important d'être là sans penser pour l'autre, faire pour l'autre, voilà, le prendre pour vraiment juste l'infirme qui est là, mais qui est une personne humaine qui a lui aussi, qui s'interroge sur son bonheur. Qui continue de s'interroger sur son bonheur. Enfin, les personnes qui sont touchées par un accident ou une maladie, évidemment, Monique continue, et heureusement, on est d'accord. Alors, c'est peut-être pas, parfois pas pour le meilleur, hein, parce que certaines sont tentées par l'euthanasie.
En fait, je pense qu'il faut toujours accompagner l'autre. Enfin, je parle aussi en tant que médecin, et voilà. Il faut toujours garder cette lueur d'espoir, cette lueur d'espérance. Mais les deux. Et c'est quelque chose de très, très important. Je le fais vraiment aussi en tant que médecin. Il y a toujours, jusqu'à la fin, quelque chose à vivre. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « Le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté », disait le philosophe Alain. Wow. Et ça, c'est important. Et je pense que ce soit pour son proche malade, et en tant que médecin et président de l'association pour les personnes handicapées moteurs, j'essaie de leur montrer qu'il y a toujours quelque chose à vivre. Et on avait eu un groupe de parole vraiment exceptionnel pour les personnes justement handicapées, et qui s'intitulait « Pour vous, qu'est-ce que le bonheur ?» Alors, avant, j'avais demandé à mes enfants, à des amis, « Pour vous, qu'est-ce que le bonheur ?» Et bien, évidemment, pour eux, le bonheur, enfin, pour nous, valide, c'est d'avoir une belle maison, un bon job, de l'argent, des voyages, enfin, tout ça. Et vous, eux, pour vous, qu'est-ce que le bonheur pour les personnes handicapées, bah, c'est le soleil, c'est éventuellement un oiseau qui chante, un regard croisé dans la rue, un sourire, quelqu'un qui sourit. Et au fond, bah, le bonheur pour eux, c'est l'empathie, la compassion, l'amour, l'amitié, l'échange, enfin... Et au fond, en fait, je crois qu'on est tous des invalides par rapport à eux, parce qu'on cherche le bonheur là où, au fond, c'est du matériel. Et eux, ils sont vraiment dans le vrai. Ils ont perdu leur masque. En fait, ils n'ont plus de masque, les personnes handicapées. Elles n'ont plus de masque. Et les personnes aussi, probablement atteintes de cancer. Enfin, il y en a qui, heureusement, gardent vraiment, font le change. Et je pense que c'est très, 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 très important. Et à la fin, bah, c'est vrai qu'il y en a qui laissent tomber le masque. Et je pense qu'ils approchent de vraiment ce que c'est que le vrai, vrai bonheur, oui, auquel nous, on devrait vraiment tous tendre, comme vous disiez tout à l'heure.
D'aller à Bora Bora, c'est bien, mais ça ne fait pas le bonheur. On est d'accord.
Voilà.
Bon, je n'ai pas dit que je voulais aller à Bora Bora.
Mais... oh bah c'est pas mal aussi.
une patiente touchée par le cancer qu'on accompagne, justement, m'a dit un jour, j'ai, de par cette maladie, j'ai redécouvert les petits plaisirs de la vie. Et c'est exactement ça.
Wow.
C'est le vent qui caresse mes cheveux, c'est le fait de marcher dans la rue, c'est le fait d'aller au marché. C'est le fait
d'être vivant, quoi.
Ouais, c'est de retrouver les petits plaisirs que j'avais mis de côté avant cette maladie-là.
Et ben, c'est exactement ce qu'il nous disait dans ce groupe de parole. Il disait, maintenant qu'on n'a plus le bonheur avec un grand B, comme si nous on l'avait, ouais, eh bien, on recherche les petits bonheurs avec des petits B. Et ils disent, voilà, bonheur, je t'ai reconnu au bruit que tu fis en partant. Waouh. Donc wow. Là, on se dit...
Véronique, je ne vais pas vous demander votre rapport au bonheur. Véronique Lefebvre des Nouettes.
Ah, mais mon rapport au bonheur est constant. Et justement, dans la joie, ce jaillissement de la joie, ouais, quand je vais me promener dans mon hôpital et que je vois un coquelicot sortir des pavés d'Ijouin, ben, ça, c'est un petit bonheur. Et quand on est médecin, il y a un très beau mot qui est accompagner, que vous avez tous utilisé. Accompagner, c'est manger le pain avec. C'est ne pas lâcher la main. C'est ne pas aller vers des solutions rédhibitoires, l'euthanasie, des choses comme ça qui ne sont pas le choix de la personne, mais le choix des enfants qui n'étaient pas en capacité d'écouter ce qu'elle vivait, hein, dans l'exemple que vous aviez donné. Donc le médecin donne cet amour, donne sans attendre, ça s'appelle l'amour agapé, hein, sans attendre de retour, et il doit être là. s'adapter tout le temps à la nouvelle allure de vie que le patient va avoir. Et la seule parole de lui dire « je ne vous lâcherai pas, je serai là, moi qui suis psychiatre, où j'ai des tentatives de suicide tous les jours à voir à l'hôpital, je parle d'amour au bord du gouffre, eh bien les personnes ne veulent plus se suicider après que j'ai été là ». Donc il faut être en capacité de diffuser ces petits bonheurs, ces sources de joie, et très vite, eh ben, ils en retrouveront aussi.
C'est ça que nous apprend peut nous apprendre la maladie. Je suis pas du tout en train de faire l'apologie, attention, hein, qu'on se trompe pas de définition et de d'interprétation de ma part, mot de Jean Ayret, mais ça fait partie de votre livre aussi et de votre vision des choses.
Hein. Complètement, ouais. Et d'ailleurs, c'est les éclats de vie, comme je les appelle, tous ces petits éclats de vie, il y en a plein. Je pense que vos patients handicapés, ils en connaissent plein, des petits bonheurs dans leur journée, alors que nous, si on rêve à Bora Bora, où ça arrive une fois tous les 10 ans, c'est compliqué. Et c'est vraiment ça que j'ai voulu montrer, tous ces éclats de vie qui ne peuvent pas être étouffés et qui même sont plus forts, plus puissants. Et c'est vrai que quand on a connu ce rapport à la mort ou à la maladie ou toutes cette image que j'avais des couches d'oignons, mais vraiment d'être dans cette pureté de rapport dans le vrai, quoi, dans le juste et dans la simplicité de, au fond, ce qui nous entoure.
C'est un peu ce que raconte d'ailleurs, j'en parle un peu souvent en ce moment, mais ça m'a quand même profondément marqué, notre rencontre avec Anne-Dauphine Julien dans cette émission Enquête de Sens, et son dernier livre en est pétri, c'est-à-dire nourri. Elle raconte en fait dans ce livre, pas du tout finalement, elle ne raconte pas du tout le suicide de son fils en fait. Ce qu'elle raconte, c'est juste la vie, ses éclats de vie. Donc la visite au boulanger, au boucher, la rue, le train, des scènes de vie, mais avec une acuité, un regard qui est complètement, qui sort complètement de l'image qu'on a, nous bien valides, comme vous dites, qui se croient valides en tout cas, comme le disait Monique, voilà, je prends le train, je me pose pas de questions, enfin voilà, elle redonne de la vie à toutes ces petites scènes du quotidien. En fait, on devrait tous faire ça. C'est ça, peut-être c'est ça le bonheur. Peut-être c'est ça le bonheur. Parce que qui est heureux aujourd'hui? Même ceux qui vivent à Bora Bora, je sais même pas s'ils sont si heureux que ça, ou à Venise, que sais-je. Mais je trouve ça hyper intéressant, cette vision, effectivement, des éclats de vie. À Monique, Anthony, je sais pas si ça vous parle. Vos éclats de vie, à vous, c'est...
Peut-être qu'il y a deux phases. Enfin, moi, je pense peut-être qu'il y a deux phases. La phase avant une potentielle maladie, puis la phase après la maladie. Aujourd'hui, moi, quand on me pose la question du bonheur, je réponds l'accomplissement de moi-même. Et par l'accomplissement de moi-même, je pense à fonder une famille, ce que j'ai fait récemment. J'ai papa d'une petite fille, et ça me donne du bonheur, c'est la famille. Il y a le fait aussi professionnel. Des fois, on le caricature en se disant que la vie professionnelle, c'est pas le plus important, etc. Mais en fait, aujourd'hui, je m'accomplis en créant cette structure, ce service Jinko. Tous les jours, je me dis, je suis content d'y aller, je suis content de faire ce que je fais. Et ces deux grosses choses que je viens de dire, ça m'accomplit, ça me donne. Enfin, c'est pour moi, c'est le bonheur. Et je pense que du coup, comme on vient de le dire, si un jour je touche du bois, j'espère ne pas vivre une maladie grave, mais peut-être que je verrai la chose de façon différente. Mais du coup, c'est deux phases différentes. C'est comme ça que je le vois.
Ouais. Il a raison, Anthony, Monique, vous trouvez?
Oui, je trouve que effectivement, il faut pas du tout sous-estimer. La vie avec tout le reste. Mais quand vous dites « je m'épanouis dans mon job », mais ça rejoint quand même le bonheur dont il parle. C'est-à-dire que en fait, il y a quelque chose, il y a une espèce de chaleur, une espèce de compassion qui passe à travers quand vous travaillez. Ben voilà, d'émotions,
oui,
etc.
Oui,
donc
oui.
Voilà, c'est pas du tout superficiel de s'épanouir dans le vôtre, en tous les cas.
Est-ce que vous allez au travail différemment maintenant, Monique? En tant que médecin, vous avez changé, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire?
Oui, mais
vous êtes plus au cabinet de la même façon?
J'ai toujours été au cabinet avec vraiment l'envie de rencontrer chaque patient, vraiment d'aller à la rencontre de chaque patient.
Mais le fait que votre mari soit souffrant?
Non, parce que je fais une différente part des choses entre le travail et puis la maison. Et ce qui est étonnant, c'est que, en fait, je ne sais pas pourquoi, mais récemment, plein de gens me demandent, des patients, « Et vous, docteur, comment ça va ?» Alors je dis « Moi, ça va bien, mais mon mari, ça va moins bien. » Et en fait, c'est très très mignon parce qu'en fait, je leur dis que mon mari a un cancer, etc. Oh, mais docteur, mais je vais plus oser, en gros, me plaindre, quoi. Je vais plus oser dire ce que j'ai. J'ai dit, mais si.
Ah bah oui, c'est vrai.
Tout est. Non, j'ai dit, mais si. Tout est important. Tout est important. Ouais. Tout ce que vous vivez est important parce que c'est le ressenti. Moi, j'ai ça avec mon mari, mais ce que vous vivez, même si par rapport, c'est pas important, c'est quand même important. Ouais. Tout ce que vous vivez est important. Et voilà. Mais je trouve que non, j'accompagne. Enfin, je suis vraiment à l'écoute, comme j'ai toujours essayé en tous les cas de l'être.
Ouais. Se ressourcer, c'est aussi important, les amis. Vous le disiez, Véronique, Lefebvre Desnouettes, se ressourcer quand on était dans qui que l'on soit, que l'on soit l'enfant, le mari, la femme.
Absolument. Enfin. Se ressourcer, prendre du temps pour soi, être un tout petit peu égoïste par moment, ouais. Écouter. Être à l'écoute de son corps et de son cœur, hein, de sa psyché, comment je ressens, et avoir des moments de répit. Parce que c'est pas possible d'aider, par exemple, un malade d'Alzheimer 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Ouais. Là, on se brûle les ailes. Donc, il faut se reposer, se ressourcer, passer le relais à des professionnels, parce qu'il y a les aidants dits naturels, et puis les aidants professionnels. Juste le temps d'aller faire ses cours, d'aller chez le coiffeur, etc. Et puis retrouver de l'énergie, regagner de l'énergie, pour finalement se dire, même cette maladie d'Alzheimer qui devient très chronique, peut avoir des bons moments de rencontre vraie avec la personne que j'aide.
Effectivement, le ressourcement est différent selon évidemment chaque aidant. Anthony, oui. C'est quoi, vous vous ressourcez aussi, vous y pensez en ce moment à ce qui arrive à votre femme?
Du coup, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'émotions grâce au travail professionnel et je pense que ça équilibre énormément.
Vous ressourcez au travail
D'une certaine façon. Je fais quand même attention à faire du sport, à bien manger, etc. Un peu les basiques. Mais j'équilibre un peu la balance comme ça et je sais qu'un jour ce sera l'inverse. Peut-être que côté perso tout ira bien et que côté pro ce sera un peu plus compliqué. Et donc c'est un peu un équilibre comme ça qu'il faut essayer de tenir.
Ouais. Eh bien merci les amis. Je crois que ce sera le mot de la fin.
Merci Marie-Ange.
Merci infiniment. J'espère que les auditeurs se sentiront un petit peu aidés ou soutenus en tout cas dans cette épreuve et on vous soutient en tout cas par la pensée, chers auditeurs qui nous écoutez fidèlement tous les jours sur cette antenne de Radio Notre-Dame et d'RCF. Maud Jean Ayret, merci beaucoup. Je rappelle votre livre Une certaine espérance chez Barry Ball. Merci d'être venu.
Merci Marie-Ange.
Je rappelle que Donne-moi des fils ou je meurs est en cours d'adaptation au cinéma. Bravo. Voilà. Anthony Miossec et vos produits Ginkgo, merci infiniment d'être venu. Merci Véronique Lefebvre Desnouettes et votre livre Mourir sur ordonnance, toujours disponible aux éditions du Rocher. Et Monique de Lafrenay, médecin que vous êtes, merci aussi pour votre association Relais Étoile de Vie. Merci les amis et bonne soirée à tous.
Merci.